pour introduire la conférence qui s'intitule Science, bouddhisme et théosophie, voici une lecture des extraits tirés d'ouvrages de Madame Blavatsky et dont un tiré d'une lettre d'un maître écrit à Madame Blavatsky. Depuis de longues années, la grande orpheline, l'humanité, a élevé sa plainte dans les ténèbres pour être guidée et illuminée. Face à la montée des splendeurs d'un progrès purement matériel, d'une science qui nourrit l'intellect mais laisse mourir de faim l'esprit, l'humanité sentant obscurément son origine et pressentant la ligne de sa destinée, a tendu vers l'Orient des mains vides que seule peut remplir une philosophie spirituelle. Souffrant des divisions, des jalousies et des haines qui déchirent le tissu même de sa vie, elle a réclamé à grands cris une fondation solide sur laquelle construire la solidarité, dont elle sent la réalité, une base métaphysique d'où puissent prendre leur essor ses idéaux sociaux les plus élevés. Seuls les maîtres de la sagesse orientale peuvent mettre en place cette fondation, satisfaire à la fois l'intellect et l'esprit, guider l'humanité en sûreté dans la nuit jusqu'à l'aube du plus grand jour. Un maître dira à Madame Blavatsky, dans une lettre donc qu'il lui a écrite, « C'est la philosophie divine seule, la philosophie de la fusion spirituelle psychique de l'homme avec la nature qui permettra, en révélant les vérités fondamentales qui sont voilées derrière les objets de sensation et de perception, de promouvoir un esprit d'unité et d'harmonie malgré la grande diversité des croyances qui s'opposent entre elles. Tel est le but que s'est proposé la théosophie, telle est l'histoire du mouvement moderne, dit HPB. Elle continue, l'unité de tout dans l'univers implique et justifie notre croyance en l'existence d'une connaissance à la fois scientifique, philosophique et religieuse, prouvant la nécessité et la réalité d'un lien entre l'homme et tout ce qui existe dans l'univers. Cette connaissance devient essentiellement religion et considérée dans son intégrité et son universalité, elle doit être appelée du nom distinctif de religion sagesse. Maintenant, place à la conférence.
Alors, amis, comme nous l'avons entendu dans la présentation, l'homme a besoin pour être complet à la fois de la spiritualité et de la science. C'est une idée peut-être un peu nouvelle en notre siècle, mais on peut dire que cela a été un des chevaux de bataille de Madame Blavatsky, donc de présenter des idées qui montrent précisément cette nécessité d'une synthèse profonde, vivante, dynamique lorsqu'elle est venue sur la scène du monde. Il faut dire qu'à l'époque où elle a commencé à faire parler d'elle en proposant au public son premier ouvrage intitulé « Isis dévoilé » en 1877, on pouvait encore lire dans l'Histoire sainte qui précisément était publiée à la même époque, chapitre 1er. Il y a près de 6000 ans, le ciel, la terre, la mer, les plantes, les animaux n'existaient pas. Mais Dieu, qui est tout puissant, qui de rien peut faire toute chose, voulut créer le monde, et il mit 6 jours à accomplir toutes ces merveilles. On comprend bien que ce genre de discours n'était pas fait pour plaire à la science, qui n'a pas accepté cela pendant longtemps, comme on le sait, et jusqu'à ce qu'elle se débarrasse un peu des menaces de la religion, presque un peu terroriste. Mais enfin, beaucoup de temps s'est écoulé, et à présent, le paysage scientifique a énormément évolué. Les rapports entre la science et les autres disciplines de la pensée ont été peut-être pas complètement révisés, mais très largement modifiés. Il faut dire que les scientifiques sont d'abord passés par la surprise parfois un peu bouleversant de la destruction de leur paradigme mécaniste à la fin du 19e siècle et au début du 20e, avec la théorie quantique et la relativité, et ces scientifiques se rendent compte qu'ils ne peuvent encore pas répondre à tout, contrairement à ce qu'on pensait au 19e siècle, où tout allait pouvoir s'expliquer. Bien sûr, ces individus sont têtus, ils continuent à chercher des solutions, des explications. Mais enfin, quelque part, on voit bien que les limites de la science semblent être atteintes et certaines constatations surprenantes se font jour, comme le fait que cet univers paraît avoir été calculé dès le début, de façon tellement précise que grâce à cette précision, le monde a évolué, de telle sorte que des planètes sont apparues et que sur ces planètes, la vie s'est développée et ensuite la conscience. Alors, bien sûr, ceci est très nouveau et surprenant, évidemment. Maintenant, on a découvert l'écologie avec toutes ses exigences et l'on commence à se rendre compte que ce monde vivant est fait d'interdépendance, de solidarité très étroite. Et ce sont des questions qui interrogent beaucoup les scientifiques qui couraient à la découverte du savoir sans bien se préoccuper des retombées et des perspectives plus ou moins funestes que l'on commence à découvrir maintenant. À côté de cela, les scientifiques réalisent à présent qu'un grand pan de la connaissance leur échappe, c'est celui de la science de l'esprit ou de la conscience, si l'on veut, des phénomènes cognitifs, et que quelque part, quelque chose ne va pas. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, entrer dans ces domaines dans lesquels beaucoup de gens continuent à chercher, hein, mais toujours avec le même paradigme. Ce monde n'est fait que de matière et tout doit pouvoir s'expliquer avec la matière. Si la conscience a fait son apparition à un moment, c'est par le jeu de l'évolution, par le jeu des molécules qui se sont organisées dans le cerveau de telle sorte que l'on a pu voir apparaître non seulement la conscience mais aussi l'intelligence réfléchie, etc. Alors, chose intéressante, les scientifiques ne sont pas les seuls à parler de cela. On entend s'élever la voix des philosophes qui posent des questions essentielles et également la voix de religieux, de mystiques, et des rencontres sont programmées entre scientifiques dans leur propre discipline, mais aussi des scientifiques de disciplines différentes. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, mais également des rencontres avec des gens d'obédience complètement différente, comme la religion, ou plus particulièrement la philosophie, ou le bouddhisme, considéré plutôt comme une philosophie plutôt qu'une religion. Hein. Alors, le sujet qui nous intéresse ici ce soir, c'est science, bouddhisme et théosophie. Quelle divergence, quelle convergence, quel dialogue possible? Comprenons tout d'abord que le dialogue est possible entre science et bouddhisme pour des raisons assez claires. La science ne croit rien sur parole, le bouddhiste non plus. Le bouddhiste rejette la foi aveugle ou la nécessité de croire par avance quoi que ce soit. Bien sûr, le Bouddha a dit des tas de choses, cependant, il ne faut pas le croire sur parole, mais prendre ses enseignements et voir dans quelle mesure ils sont acceptables. Donc, le rejet de tout joug dogmatisme fait que scientifiques et bouddhistes peuvent se rencontrer. Maintenant, il se trouve aussi que beaucoup de scientifiques sont en même temps des humanistes qui se préoccupent par exemple de psychologie ou de certains aspects de la conscience qui est tellement surprenante quant à ses capacités, sans parler encore de pouvoirs parapsychologiques qui commencent à intéresser quelques scientifiques. Il y a là un grand défi lancé à la science matérialiste et l'on comprend bien que certains scientifiques soient prêts à dialoguer avec des personnes comme les bouddhistes qui prétendent avoir des connaissances acquises par d'autres voies. On dirait bien qu'il n'y a pas que l'observation matérielle, l'observation des choses palpables et mesurables qui puisse apporter une connaissance réelle dont on puisse tirer parti dans la vie de tous les jours. Et ceci, Madame Blavatsky en avait largement parlé au 19e siècle, même si cela semble être une nouveauté. Cette constatation a été mise en avant également par les bouddhistes, qui nous ont un peu envahis pacifiquement, on va dire, qui nous disent qu'il existe une science contemplative, une discipline de l'esprit, du mental, de la capacité de la conscience à se retirer à l'intérieur de l'être pour aller à la recherche d'éléments de connaissance qui parviennent à apporter des explications qui auraient échappé complètement à la simple investigation objective. Alors, toutes ces idées germent actuellement. Et on voit bien que des individus de différentes obédiences et des chercheurs, bien entendu, peuvent établir entre eux un dialogue fécond pour laisser entrevoir la possibilité d'une complémentarité entre science et bouddhisme qui mérite d'être approfondie et étudiée. Alors, quels sont les caractères de la science? Nous les connaissons. La science fonde son savoir sur l'observation, sur l'expérience. On fait des expériences, on tire des conclusions, et bien entendu, on a des idées préconçues qui disent que des lois existent. Si un courant circule dans un conducteur, il doit obéir à certaines lois, à certaines constantes, si l'on veut. Donc, le scientifique devine qu'il doit y avoir des règles, que le monde n'est pas un chaos, et par conséquent, on doit pouvoir chercher ces lois. Donc, on cherche. Localement, des expériences sont faites avec, par exemple, un fil au travers duquel on fait courir du courant, et à partir de là, on va essayer d'élargir un peu la connaissance pour parvenir à deviner, en quelque sorte, la manière dont le monde fonctionne, mais toujours sur la base de l'expérience, de la mesure, avec le développement de théories qui saisissent de plus en plus de phénomènes, jusqu'à ce que l'on arrive à une théorie unitaire, capable de tout expliquer, du monde physique, évidemment. Alors, bien sûr, c'est là une lacune difficile à combler. Maintenant, pour ce qui est du bouddhisme. Le bouddhiste est tout d'abord un disciple du Bouddha. Il va donc commencer par s'informer de tout ce que le Bouddha a pu dire. Il va lire tout ce qui concerne l'enseignement du Bouddha, comme la triple corbeille, qui est un peu le canon du bouddhisme, afin d'essayer d'en tirer le meilleur parti pour diriger sa vie selon ses informations, puisque le bouddhisme est essentiellement une psychothérapie. Bouddha s'est adressé aux hommes pour tenter de les guérir de la souffrance et non pas pour leur donner des idées scientifiques sur l'origine du monde. Il a voulu leur faire comprendre comment ils étaient eux-mêmes les artisans de leur bonheur ou de leur malheur. Pourtant, il ne faut pas se représenter un seul bouddhisme à partir de cet enseignement de base qui a été plus ou moins codifiés, rassemblés au cours de conciles ou de réunions entre fidèles du bouddhisme, à partir desquelles des écoles se sont développées, comme le grand véhicule, le petit véhicule, le véhicule de diamant, véhicule étant le système méthodique permettant d'arriver à l'éveil et à la libération des liens du samsara, samsara qui est le cycle vie-mort-renaissance. Dans les voies du bouddhisme, on oppose généralement le petit véhicule, Hinayana, au grand véhicule, Mahayana, école qui enseigne également les quatre nobles vérités, ces vérités étant à la base de tout le bouddhisme, qui conduisent à la voie tracée par le Bouddha pour atteindre les moyens de la délivrance. Et au sein de ces grandes écoles, il faut encore se représenter des sous-écoles qui chacune ont leur propre façon d'interpréter les dires du Bouddha en prétendant toujours être dans le droit fil de la parole du Bouddha. Et on voit que beaucoup de choses, comme le lamaïsme par exemple, ont probablement été rajoutées par la suite par des docteurs du bouddhisme qui, par leur raisonnement logique, sont parvenus à tirer des conclusions afin d'étayer leur théorie. Et de plus, il reste la démarche individuelle qu'un disciple, sous la direction d'un maître ou d'un lama ou d'un gourou, doit effectuer en se soumettant à la discipline nécessaire de contemplation, de méditation, à l'observation de soi-même d'après la manière dont il se comporte. Bref, cela devient de l'expérimental à ce moment-là. Et l'on a pu construire une espèce de science du bouddhisme, une science de la psychologie, de l'être, et même une science capable de rendre compte dans quelle mesure la santé du corps physique peut être maintenue, et éventuellement avoir aussi quelques idées sur la cosmogénèse, etc. Alors, il faut dire entre parenthèses que plusieurs idées qui circulent dans le bouddhisme sont carrément des emprunts à l'hindouisme. Mais en général, les bouddhistes ne le savent pas vraiment ou ne le reconnaissent pas, mais peut-être parce qu'on ne leur a pas dit, hein. Mais celui qui connaît bien l'hindouisme met le doigt très clairement sur la source dans un grand nombre de cas. Mais bon, on n'est pas là pour faire des polémiques sur l'hindouisme ou le bouddhisme. Alors à présent, la théosophie arrive en troisième lieu dans notre exposé. Et cette théosophie, qu'est-ce que c'est ? C'est le message transmis par Madame Blavatsky au monde moderne à partir de 1877. Un message entièrement fondé sur l'enseignement que les maîtres de sagesse ont communiqué à HPB. Or, ces maîtres de sagesse, savez-vous qui ils sont ? Madame Blavatsky a dit à maintes reprises dans ses écrits « Je suis une bouddhiste et mes maîtres appartiennent à la première école du bouddhisme. » Première école dont on a perdu la trace, bien entendu. Mais en fait, il ne s'agit pas de bouddhistes appartenant à une école. Madame Blavatsky dit « Mes maîtres sont basés au Tibet, mais ce ne sont pas des lamaïstes. Ils n'enseignent pas le lamaïsme. Ils enseignent quoi ? Ils enseignent le bouddhisme dans son aspect ésotérique, dans son aspect caché, son aspect secret, transmis depuis un temps où le bouddhisme n'existait pas encore, mais qui renvoie à l'idée de l'éveil, à l'idée de la grande connaissance qui est saisie par un initié complet. Donc, HPB se réclame de ses maîtres qui vivaient à son époque, et sa préoccupation essentielle n'a pas été de transmettre une science, mais d'éveiller les hommes à l'idée d'une vision scientifique des choses, à l'idée qu'il faut avoir une base scientifique à l'éthique, de façon à ce que le comportement de l'homme ne soit pas dicté uniquement par la volonté d'un dieu ou de ce que le Bouddha a pu dire, mais que cela repose sur des faits qui embrassent non seulement l'homme, mais aussi tout l'univers. Et que si on connaît les lois qui entrent en action, un comportement approprié va en découler automatiquement. Maintenant, il s'agissait aussi, avec les clés cachées, les clés ésotériques de l'enseignement théosophique transmis par les grands maîtres, d'interpréter leurs paroles et également la parole de tous les autres grands maîtres qui se sont manifestés dans l'histoire du monde, les Bouddhas, les Krishna, les Jésus et bien d'autres encore, hein, d'interpréter et de trouver la base commune ou le fil commun qui réunissait ces différents courants religieux. Bien sûr, une des idées clés qui découle de tout cela, c'est la fraternité universelle. Tous les hommes doivent réaliser qu'ils sont là pour participer à un grand mouvement d'évolution, où ils ont tous leur place, chacun à sa place, aucun n'est séparé des autres, mais où chacun doit apporter son aide d'une manière solidaire. Alors, en gros, hein, voilà les grandes idées de la théosophie. La théosophie ne doit rien à la science de son temps. Elle ne doit rien à personne, mais elle doit tout à cette lignée d'initiés qui se sont transmis cette connaissance à travers les âges. À présent, si on se positionne face au sujet de ce soir, on peut se demander sur quoi se baser pour discuter de science et bouddhisme. Nous avons opté pour un ouvrage intitulé « L'infini dans la paume de la main, du Big Bang à l'éveil », un ouvrage écrit en collaboration entre Mathieu Ricard, que nous connaissons, et un hindou, Trinh Xuan Thuan, paru en 2000. Ce livre est présenté comme un échange de points de vue et ses écrits peuvent apporter une trame sur laquelle on peut conduire le discours sur la confrontation entre le bouddhisme et la science. Alors, c'est un dialogue très, très vivant entre un scientifique, Trinh Xuan Thuan, qui de naissance est un oriental, issu d'un milieu bouddhiste. Donc voilà un bouddhiste oriental qui devient un scientifique. Par contre, Mathieu Ricard, qui comme nous le savons est un occidental au départ, devenu bouddhiste par la suite. Nous avons donc là la possibilité d'un dialogue intéressant. Ces gens ne vont pas se trancher la gorge, ils vont essayer de s'entendre, d'échanger, d'autant plus que chacun d'eux connaît tout de même parfaitement ce que l'interlocuteur adverse a à dire dans son domaine. Alors, on confronte une science occidentale dont l'oriental est le porte-parole, cet oriental qui est aussi un humaniste, qui se préoccupe de l'humain, donc ouvert à la philosophie, c'est un platonicien. Disons au passage que pas mal de scientifiques ont une ouverture sur la philosophie et peuvent ainsi aller plus loin que le scientifique pur et dur qui s'en tient uniquement à ses mathématiques, ses théories, ses déductions. Donc, confrontation avec le bouddhiste qui lui va parler de la science de l'esprit, de la conscience, etc., mais avec une formation de scientifique. Alors c'est très étrange, le scientifique fait ce qu'il peut pour démontrer le point de vue de la science, et le bouddhiste fait ce qu'il peut pour lui faire accepter un certain nombre de choses. C'est amusant. Et voilà le type d'échange qui se fait. Ça commence ainsi. L'univers a-t-il un début? Question posée au scientifique Trinh Xuân Thanh, spécialisé dans la cosmogénèse, qui répond après réflexion, eh bien oui, on parle d'un Big Bang, vous connaissez tout ce qui est dit à ce sujet, et là, le bouddhiste va rétorquer, pas du tout. D'abord, vous ne pouvez pas le prouver, ce qui est vrai. Même si cette théorie du Big Bang semble être la plus plausible pour l'instant, compte tenu des résultats que l'on a. Mais le bouddhiste insiste, non, l'univers n'a pas de début, elle n'aura pas de fin. Et là, il se fait l'écho de l'hindouisme, sans le citer, bien entendu. Effectivement, dans l'hindouisme, il est question des jours et des nuits de Brahma, avec le déploiement et le retrait des univers à l'intérieur de cet absolu dont on ne sait rien et dont on ne peut rien dire. Et alors là, que dit la théosophie? Madame Blavatsky a écrit des pages entières consacrées à cela et elle explique comment les univers se déploient effectivement, mais pas d'un coup de baguette magique. Elle donne des indications précises à ce sujet sur l'apparition de la vie dans son ouvrage « La doctrine secrète ». Alors ensuite, autre question, y a-t-il un principe organisateur du cosmos? Ça, c'est la grande question pour le scientifique qui n'en sait rien. Mais pour lui qui réfléchit et s'intéresse à la philosophie, qui voit de la façon dont les choses se sont passées dans cette théorie du Big Bang, à vous, on dirait bien que cet univers est biaisé, qu'il ne va pas comme cela à la dérive, et on dirait bien que depuis ce grand feu d'artifice du début, les choses avaient dû être calculées pour qu'à la fin du compte, on en arrive maintenant à des planètes où la conscience peut apparaître. De plus, d'autres scientifiques directement branchés sur le biologique se disent aussi « Mais c'est fou d'imaginer que par un jeu extraordinaire, aléatoire d'associations entre des atomes et des molécules, on arrive à créer l'ADN et qu'à partir de là, la vie apparaisse. Vous pouvez le croire si vous voulez, mais c'est difficile à accepter. C'est une question de croyance. Personne n'a démontré que la vie est surgie par un jeu hasardeux de choc entre des molécules. Mais comme le dit Mathieu Ricard, beaucoup de scientifiques sont enfermés dans leurs préjugés et croient dur comme fer que les choses ne peuvent pas s'expliquer autrement que par des processus matériels. Mais personne n'est capable de le prouver. Aucun biologiste n'a pu fabriquer de la vie dans ses corps nus ou voir apparaître les premières traces de la vie nulle part. Si l'on se tourne vers un biologiste qui voit comment les formes extraordinaires se développent, et c'est le cas de Rémi Chauvin, c'est un biologiste qui est bien connu en France, il dit « Ce n'est pas possible que des formes pareilles arrivent à se fabriquer ». Quelque part, il doit y avoir un démiurge, un principe organisateur. Où est-il? J'en sais rien, mais on ne peut pas échapper à cette conclusion. Bon, alors là, nous avons affaire à la réflexion d'un hérétique de la science. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que l'hérésie et qu'est-ce que c'est que l'orthodoxie? L'orthodoxie, c'est croire, comme tout le monde, que seule la matière peut fabriquer la vie. Or, curieusement, ce principe organisateur, le scientifique, Trinh Xuân Thanh, y croit. Il pense qu'il y a un principe qui met en route tout le développement de l'évolution, alors que le bouddhiste, Mathieu Ricard, dit non, il n'y a pas de principe organisateur, il n'y a pas de cause première. Et là, avec cette idée, il jette en quelque sorte le bébé avec l'eau de son bain, en jetant par-dessus bord l'idée de force d'intelligence capable collectivement de guider le développement de l'évolution. Donc pour lui, cela semble clair, mais bien entendu, la théosophie n'est pas du tout d'accord avec ce qui est dit sur ce point-là. On peut noter derrière, d'ailleurs, un certain réductionnisme de la part du bouddhiste. Alors, on peut rappeler brièvement ce qu'écrit Marine Blavatsky. L'ordre tout entier de la nature fait apparaître un mouvement ascendant progressif d'une vie supérieure. Il y a une intention précise dans l'action des forces apparemment les plus aveugles. Et là, HPB parle au nom d'initiés qui savent et qui transmettent ces enseignements. Alors ensuite, que dire d'autre? Y a-t-il interdépendance absolue entre tous les phénomènes de l'univers? Bon, cela peut très bien se vérifier dans le domaine écologique, tout est interdépendant, tous les êtres vivants sont interdépendants, et même au niveau des particules les plus ultimes de la matière. Est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir cette interdépendance? Alors là, le bouddhiste talonne un peu le scientifique. Ah oui, avec le fameux paradoxe EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, qui montre que deux photons, d'abord corrélés, ont un devenir très étroitement lié. C'est ce qui est appelé la non-séparabilité. Alors on dirait bien que même au fin fond de la matière, cette interdépendance finisse par se manifester. Bon, mais pour la théosophie, quelques réflexions s'imposent. Aussi bien le bouddhiste que le scientifique ignorent complètement l'existence d'un monde astral, des coulisses de la nature, un monde extraordinairement riche, peuplé de toutes sortes d'énergies, d'intelligence et d'entités qui peuvent très bien servir de véhicule, de vecteur pour transporter l'information entre le photon numéro 1 et le photon numéro 2. Alors, cela semble échapper complètement à la science et aux bouddhistes. Ensuite, y a-t-il des particules élémentaires à la base de la matière physique? Alors, le bouddhiste s'élève contre la tendance à réifier les choses, c'est-à-dire à imaginer que ce monde est fait de choses dures, qu'il y a une réalité intrinsèque derrière chaque chose. Bien entendu, cela ne tient pas vraiment la route parce qu'on sait bien que tout apparaît, puis disparaît, qu'il existe une interaction constante. Et si on descend au niveau ultime de la connaissance de la matière, on trouve ces fameuses particules connues sous le nom de la théorie des cordes, selon laquelle les constituants ultimes de la matière sont de minuscules filaments en état de vibration. Cette théorie a pour but de rendre compatible la physique quantique donc, et la relativité générale. Mais ces cordes vibrantes existent-elles vraiment ou est-ce seulement une invention, une vue de l'esprit? Ici, le scientifique ne sait pas, ne peut pas conclure. Et il déclare tranquillement « le réel est voilé ». S'il y a un réel, il existe peut-être, mais on ne pourra jamais l'atteindre par les méthodes que nous utilisons habituellement. Peut-être n'y a-t-il pas de réel, et ça, ça fera plaisir aux bouddhistes. Mais nous ne pouvons pas nous décider là-dessus. En 1888, Mme Blavatsky s'est élevée assez fortement dans la doctrine secrète, toujours où elle écrit « Vains sont vos efforts pour sonder l'insondable et arriver aux racines de cette matière si glorifiée en notre siècle. » On croyait encore à l'époque que la matière était constituée de petites briques. Et elle continue ainsi. Plus vous pénétrerez en profondeur dans la région des atomes chimiques, plus vous vous convaincrez qu'ils n'existent que dans votre imagination. Donc, quelque part, la théosophie va bien soutenir l'idée avancée par le bouddhisme. Alors, finalement, y a-t-il des choses permanentes, même si on vit dans un monde d'illusions ? Bien sûr, comme l'a dit Héraclite, tout coule, tout se change, tout se transforme. C'est encore une idée de l'hindouisme. C'est le Nitya Pralaya, c'est la destruction incessante des choses qui se reconstruisent de façon incessante. Mais là, encore une fois, le bouddhiste essaie de talonner le scientifique pour lui faire admettre que tout est impermanent. Le scientifique semble perplexe, il réfléchit un instant et dit « Vous savez, malgré tout, prenons un diamant. Il est là depuis des millions d'années sur la Terre, et si on ne le place pas au milieu d'un brasier, il va encore durer des millions d'années. Et ce n'est pas tout. Le proton lui-même, à la base de la constitution de la matière, connaissez-vous sa durée de vie? Eh bien, prenons une unité, 1, 2, n'importe quel chiffre, suivi de 30 zéros, et mettons années au bout. Est-ce là quelque chose d'impermanent? Bon, il ne faut pas exagérer tout de même. Quelque chose qui dure aussi longtemps ne peut pas être qualifié d'impermanence, c'est vraiment de la permanence, c'est presque de l'éternité. Et là, encore une fois, le bouddhiste qui ne fait pas état d'une réalité qui soit saisissable, même par la contemplation intérieure en dehors du monde physique, eh bien ce bouddhiste a l'air d'ignorer complètement qu'il y a dans l'homme ce que Saint Paul qui était un initié, hein, rappelons-le, ce que Saint Paul a appelé le corps spirituel qui dure tout le temps de la vie d'un univers. C'est pas mal. Oh, bien sûr, c'est un clin d'œil par rapport à l'éternité, mais ça n'est quand même pas mal. Bon, cela signifie que si l'on veut bien que tout soit impermanent, quelque part cette impermanence est tout de même très variable. Depuis l'éclair, admettons, qui dégringole jusqu'à ces réalités du monde spirituel où l'on touche vraiment au permanent. Alors maintenant, voilà un chapitre qui demande, est-ce que les lois existent en elles-mêmes ou pas ? Pour le bouddhiste, il n'y a pas de principe organisateur, pas de loi préexistante. Ah bon ? Comment ça se passe alors? Comment le monde se construit? Eh bien, dit-il, tout simplement, dans un monde d'interaction et d'interdépendance, l'aspect esprit et l'aspect matière sont constamment liés et s'ajustent. Cela signifie que si un homme apparaît sur la terre, c'est par l'ajustement de l'aspect conscience et matière. On veut bien, mais on dirait bien que beaucoup de choses échappent à ce raisonnement. On aurait vraiment besoin d'en savoir davantage. Maintenant, pour le scientifique, il y a des lois préexistantes et il les cherche, c'est son travail, il y croit, d'avance il y croit. Quant à la théosophie, elle enseigne que des lois de la nature sont déployées, mises en œuvre par des hiérarchies hautement spirituelles lors du déploiement d'un univers, des lois qui continuent à être présentes et à être gérées par ces hiérarchies à chaque instant. Mais cela n'est pas une affirmation lancée sans aucun fondement. Ces lois n'ont même pas été trouvées, découvertes par une simple séance de méditation. Depuis des âges et des âges, de grands initiés ont pu pénétrer les coulisses de la nature pour en expérimenter les rouages, pour comprendre le fonctionnement du système, le déchiffrer et ensuite le transmettre tout au long de l'évolution sans aucune interruption. Alors, on comprend bien qu'il n'y a que l'initiation qui se transmet depuis la nuit des temps qui puisse apporter des informations dans ce domaine. Madame Blavatsky traite longuement et très explicitement ce sujet dans son ouvrage majeur, encore une fois, La doctrine secrète. Maintenant, encore une question posée aux scientifiques. L'univers est-il réglé par les mathématiques ? Réponse du bouddhiste, non. Si on lit le passage concerné, voici ce qui est dit. L'étude des mathématiques reflète la façon dont fonctionne le mental du mathématicien. Bon, tirez-en les conclusions. Le scientifique, Trinh Xuân Thuan, qui est à la fois un platonicien, rétorque, ce monde repose sur les mathématiques. Et Platon n'a-t-il pas dit, la divinité géométrise, tout est basé sur le nombre. Mais en fait, cela est une croyance, et le point de vue du bouddhiste est aussi une croyance. Il ne peut pas prouver ce qu'il avance. Donc là, on voit bien que l'on dépasse le cadre du vérifiable quand bouddhistes et scientifiques s'opposent sur des questions aussi particulières que celles-là. Alors ensuite, on va entrer carrément dans le domaine de la conscience. Là, le scientifique avoue son incompétence. Ici commence à se développer l'idée de la science contemplative. Pour le bouddhiste, avec la science contemplative, sous la direction de maîtres qualifiés, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de moi permanent dans l'être. Tout est une construction liée à la dépendance, liée aux échanges qui se font avec tous les autres, et qu'en définitive, il n'y a pas d'individualité permanente dans l'homme. Alors, comment expliquer la conscience chez l'individu ? Eh bien, voyez-vous, il faut postuler un continuum de conscience qui soutient les opérations du mental, qui met en mémoire toutes les pensées, toutes les émotions. Tout le contenu de notre vie psychique est enregistré en mémoire dans ce continuum de conscience, dont la racine est la grande conscience absolue, dit-on, mais sans donner plus de détails. C'est là où les choses se corsent de façon plutôt désagréable pour le bouddhiste, parce que si on lui demande « que se passe-t-il après la vie ?», il entre dans des explications qui vont justifier précisément tout ce que Madame Blavatsky a écrit. Voici ce qu'elle dit. Les bouddhistes peuvent bien se contenter de la lettre morte de Siddhartha Bouddha, car il n'en est pas de plus noble, mais, explique-t-elle, ce bouddhisme-là est aussi froid et aussi désolé en ce qui concerne la condition de l'homme post-mortem. En effet, si on suit les explications données par le bouddhiste, on peut se demander ce que devient ce continuum de conscience. Réponse du bouddhiste. Il subit un choc traumatique au moment de la mort, tel que le souvenir de sa vie s'estompe, et quand ce continuum de conscience reprend du service dans un nouveau bébé, le souvenir s'est complètement effacé. D'accord, mais que s'est-il passé entre les deux phases? En fait, si la question se pose, cela signifie que vous croyez à la réincarnation, n'est-ce pas? Et alors, que devient ce continuum de conscience qui est enraciné dans la grande conscience, ou dans le Bouddha, si l'on veut, au moment de la réincarnation? Et en plus, comment expliquer la situation actuelle où l'on constate la démographie galopante, où il y a de plus en plus d'êtres qui s'incarnent? Réponse, c'est très simple. Étant donné que ce continuum de conscience peut s'incarner dans 5 mondes différents, chez les démons, les diables, tout ce qu'on veut, et de plus, même chez les animaux, d'où il peut ressortir pour venir s'incarner dans l'homme, cela justifie qu'il peut y avoir un grand afflux de ces continuums de conscience. Ces explications sont radicalement fausses du point de vue de la théosophie, c'est-à-dire du point de vue de l'initiation. C'est radicalement faux, et il faut bien insister là-dessus. Il est très clair qu'on dépouille l'homme d'un noyau de conscience individuelle, non pas personnel, un homme qui s'identifie au personnage qu'il joue, à ses pensées, à ses désirs, etc. Si on dépouille cet homme d'une racine d'individualité et en même temps d'un libre arbitre, comment imaginer un libre arbitre réel sans individualité, sans un sens d'identité? Si l'on écarte l'identité, où est le libre-arbitre? Et pourtant, en bouddhisme, on postule quand même un libre-arbitre. S'il n'y a pas de racine dans l'homme le plus humble qui existe sur la terre, une racine d'identité qui sert de substrat à toutes ses opérations de conscience pendant qu'il est incarné, qu'est-ce qui reste? Pour la théosophie, c'est un point très important, parce que cette manifestation sur terre de la conscience, c'est en fait le prolongement de la conscience d'un grand principe, d'une réalité individuelle qui relie en quelque sorte la grande conscience universelle, la grande conscience cosmique, ou la conscience de Bouddha, si on veut lui donner un nom. Mais elle est là, ce principe d'identité est là, et n'a rien à voir avec la personnalité telle qu'on l'imagine. Encore une fois, le bouddhisme a jeté le bébé avec l'eau de son bain en déclarant que les hindous se trompaient en postulant un jiva personnel qui s'incarnait et se réincarnait. Il a en même temps jeté cette idée essentielle de l'existence d'un être individuel, d'un être relié au divin, présent dans l'homme le plus humble qui existe sur la terre. Alors, on va simplement rappeler pour terminer que Madame Blavatsky n'est pas venue sur terre pour étonner les gens ou pour rompre des lances avec la religion, avec la philosophie ou autre, mais pour apporter les notions, la connaissance dont l'humanité avait collectivement besoin pour maintenir vivant dans tous les hommes l'intuition des vérités spirituelles et pour ainsi sauver l'homme du désespoir, parce qu'avec la croissance de la science matérialiste, il était condamné soit à retomber dans la bigoterie, soit à tomber dans un matérialisme de luxe et perdre complètement le sens de sa mission sur la Terre.